vite, Mimi. On va louper le début.
Passe devant, j'écouterai. En podcast.
L'auditeur de l'autre radio n'a peut-être encore jamais mis les pieds dans nos studios. Sachez qu'aujourd'hui, dans ce décor pourtant familier, je me sens coincée quelque part entre le vrai et le faux, entre la comédie et la vie de tous les jours. Ce studio, habituellement bien rangé, ressemble aujourd'hui à un décor en carton qui menace de s'effondrer. Alors tout peut arriver aujourd'hui dans cette émission. Ne vous étonnez pas si une porte claque, si un personnage entre en trombe ou si vous entendez une femme hurler. Mais enfin, Robert, explique-moi ce que fait ce soutien-gorge sur la table de mixage. Vous cernez un peu l'ambiance, un peu l'idée. Bienvenue dans votre émission. Émission quotidienne, mais surtout bienvenue dans le théâtre de boulevard où les quiproquos s'enchaînent et où on finit toujours par rire, parce que sinon franchement on aurait tout faux. Aujourd'hui avec moi un des chefs d'orchestre de cette aventure, un des metteurs en scène de cette histoire, David Le Dauphin de la compagnie des Saltimbanques de Montaudin. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, j'adore cette intro, franchement je la trouve très très belle.
Je suis en forme aujourd'hui. La pièce dont on va parler ensemble, c'est Voyez-vous ce que je vois de Ray Cooney et de John Chapman, que vous jouerez à partir du 1er février dans la salle de la Rabine à Montaudin pour 4 représentations. Alors on aura le plaisir d'en parler ensemble justement dans quelques instants. Et puis après cette joyeuse pagaille théâtrale, on changera un peu de décor, mais on restera dans l'idée d'un toit, d'un espace dans lequel on s'installe, où l'on vit, puisque l'on parlera d'un dispositif proposé par l'association départementale pour le logement des jeunes en Mayenne, une solution d'hébergement temporaire chez l'habitant pour ceux qui ont besoin d'un point de chute, d'un entre-deux. Et puis pour boucler cette émission, on retrouvera la chronique de l'UFC Que choisir de la Mayenne, parce que le théâtre c'est bien, un toit au-dessus de la tête c'est essentiel, mais savoir si on ne se fait pas rouler sur son contrat d'électricité ou son abonnement mobile, c'est pas mal non plus. Alors restez avec nous, on va rire, réfléchir et très certainement apprendre des choses ensemble. C'est la JT du local qui commence votre émission quotidienne. Je suis Margot et je suis contente de passer ce moment en compagnie de David Le Dauphin de la compagnie des Saltimbanques de Montaudin et metteur en scène de la nouvelle pièce qu'ils joueront donc le 1er février à 20h30, le 2 février à 14h30, le 7 février à 20h45 et le 8 février à 20h30 à la salle de la Rabine, donc à Montaudin. Il s'agit de la pièce « Voyez-vous ce que je vois » de Ray Cooney et de John Chapman. Donc c'est une pièce écrite par deux auteurs, maîtres de vaudeville et du quiproquo. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte pour le monter cette année, David ?
Alors déjà, il faut savoir que chaque année, donc on compte le nombre de comédiens ou de comédiennes qui veulent repartir avec nous. Donc on essaie toujours de trouver une pièce pour tout le monde, pour éviter de mettre quelqu'un de côté. Et puis, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui cherche beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces. Donc forcément, ma maman, qui est présidente et metteur en scène chaque année, me demande souvent si j'ai pas une pièce sous la main, etc. Donc j'en avais proposé plusieurs et puis je tombe sur cette fameuse pièce qui s'appelle « Voyez-vous ce que je vois ?». Très 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 peu d'informations, je me dis « bon, ok, mais ça fait le nombre d'acteurs, je lis un peu le résumé, je fais « oh, ça a l'air pas mal ». Donc elle me dit « bon bah récupère-moi la vidéo, qu'on découvre un peu à quoi ça ressemble ». J'ai cherché pendant plusieurs mois sans jamais rien trouver, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui me dit qu'il a un enregistrement de l'émission Au Théâtre ce soir qui n'a jamais été distribué ni en VHS ni en DVD. Donc je négocie avec lui durement et je réussis à récupérer la vidéo. On regarde, on fait « ah ouais, c'est pas mal et tout ça, bon bah allez hop, on part là-dessus » et je retourne devant mon ordi et il n'y a pas de texte. Il n'y a aucun texte de la pièce qui n'a été distribué ou aucun manuscrit protégé par la SACD. Donc la SACD, c'est la société des auteurs qui protège justement les textes de théâtre. Donc impossible de mettre la main dessus et impossible de contacter les héritiers des traducteurs, puisque si je ne me trompe pas, il y a au moins un traducteur ou une traductrice qui est décédée et l'autre, je n'ai pas eu assez d'informations. Donc voilà, j'ai passé tout mon été à réécouter la vidéo seconde après seconde pour essayer de faire un texte en essayant de supprimer les parties improvisées pour dire voilà, ça nous appartient pas, on verra bien nous comment on le fait, etc. Et pour pouvoir proposer un texte en fait aux comédiens. Donc ça a été un très long été.
Alors heureusement il faisait pas très beau, ça permet, on se dit, si on est chez soi en train d'écrire, c'est un peu plus sympathique. Comment est-ce que vous avez travaillé ensuite à trois sur la mise en scène, puisque vous êtes trois metteurs en scène? Est-ce que chacun avait un rôle particulier ou est-ce que c'était un moment d'échange entre vous pour compléter, pour réfléchir?
Alors déjà, il faut savoir que quand j'ai proposé la pièce, il n'y avait pas comment dire, d'idée de me remettre à la mise en scène. Je l'avais fait il y a 2 ans et je n'avais pas forcément envie de le refaire. Et puis donc du coup, je donne la pièce à ma maman qui est metteur en scène chaque année et je me vois justement récupérer un petit rôle, quoi. Et je me dis, bon, c'est pas grave, hein. Moi j'apprécie toujours, hein. Il n'y a pas de petit ou de grand rôle, mais il faut bien avouer que même si on s'éclate sur scène avec un petit rôle, on s'ennuie un peu dans les coulisses à attendre. Donc je propose à ma maman, je lui dis, écoute, est-ce que tu acceptes que je sois co-metteur en scène avec toi? Et elle me dit, pas de souci. Et puis on commence à essayer de discuter, à essayer de se refaire comme il y a 2 ans, de replacer justement une entente, de savoir comment on peut travailler la mise en scène, etc. Et puis, donc ma maman, Christelle Le Dauphin, d'ailleurs, je baille son nom quand même, par respect pour ma maman. Et puis, pendant du coup la préparation de la saison, on a Stéphane Delière qui est là aussi depuis la première année, qui a fait plusieurs pauses, mais qui est là depuis la première année, depuis 1994. Qui a proposé plusieurs idées, etc., etc. Puis du coup, à force de proposer plusieurs idées, on a dit que c'était normal de se nommer en tant que 3 co-metteurs en scène, quoi.
Et alors, on peut le dire que la pièce, elle repose quand même sur un rythme effréné, des situations loufoques. Ça s'enchaîne vraiment bien. Comment est-ce que vous avez dirigé les comédiens pour qu'ils trouvent justement le bon tempo?
Alors, je confirme, hein, la vivacité de cette pièce, et je pense à notre comédien principal, Tanguy Le Dauphin, qui est en sueur après chaque répétition de cette pièce. Je le plains, mais en même temps, je pense qu'il doit s'amuser, mais je le plains. Mais ouais, c'est pas quelque chose d'évident. Je pense que pour ceux qui connaissent les pièces de Rekounet et Chapman, et pour ceux qui connaissent pas, j'ai expliqué très rapidement, mais en gros, sont des pièces où il y a toujours des quiproquos, des situations inattendues, des choses qu'on veut cacher, des choses qu'on veut expliquer très très rapidement pour essayer de cacher le mensonge, etc., etc. Ça, c'est l'idée des pièces principales de Kounet et Chapman, ce qui fait que du coup on court un peu dans tous les sens. Et là, la particularité de cette pièce, c'est qu'officiellement les comédiens, eux, n'ont pas tant à courir que ça. Et toutes les personnes qui doivent courir, en fait, sont réunies dans un seul et même personnage qui se trouve être le rôle principal. Donc c'est pour ça, je pense, qu'il transpire énormément. Mais effectivement, il y a une mise en scène qui n'est pas évidente. On n'explique jamais pourquoi, parce qu'on a envie que les gens aient la surprise. Mais il faut savoir qu'il y a une particularité dans cette pièce qui fait qu'à plusieurs reprises, j'ai dû dire aux comédiens « Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas regarder là. Non, tu ne peux pas aller là. » Et tout le temps. Et les reprendre constamment pour leur faire comprendre en fait ce que ils sont censés vivre selon leur personnage et pas ce qu'ils sont censés voir comme le public est censé voir dans la salle. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, mais voilà, je pense que là ils commencent à l'avoir. Non, ils l'ont heureusement parce que bon, on joue quand même dans quelques jours.
Le 1er février, c'est quand même très bientôt.
Ouais, ouais. Donc non, on va dire qu'ils l'ont. Hein. C'est mieux l'antenne. Oui, on va dire qu'ils l'ont.
On est en direct sur l'autre radio.
Mais non, ouais, ça se passe très bien et je pense que on devrait proposer une bonne pièce au public avec une mise en scène différente de ce qu'on fait d'habitude.
Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur l'histoire qui va nous être racontée sur scène pour que l'auditeur de l'autre radio ait au moins une petite piste sans trop en dévoiler?
Ouais, alors je vais le faire un peu à l'impro hein, parce que je ne veux pas trop en révéler, mais en même temps, j'ai pas le résumé sous les yeux. Mais en gros, c'est Robert Turlotte en fait qui va marier sa fille. Le problème, c'est qu'il pense à plein de choses. Donc, il pense un petit peu au mariage de sa fille, mais il pense aussi au soutien-gorge Nidouillet, dont il fait la promotion et dont il est censé faire la communication pendant la préparatif du mariage de sa fille. Il se dit, ouais, faut que j'aille voir mon patron tout de suite, faut que je lui propose des idées, etc. Il pense aussi qu'il a promis à son beau-père de lui ramener des chaussettes juste avant la cérémonie. Faut aussi qu'il ramène des fleurs à la belle famille, etc. Donc il court déjà de base dès le début parce que il a besoin de penser à plein de choses et arrive un accident qui va faire tourner toute la pièce et nous amener sur quelque chose de totalement différent, en tout cas pour le personnage de Robert Turlotte.
Cette pièce a été jouée dans les années 70 en France, notamment avec Jean Le Poulain. Est-ce que vous avez cherché à redonner une forme de modernité dans la mise en scène, dans l'esthétique, ou est-ce que vous restez assez proche finalement de ce qui a été fait à l'époque?
Alors, bien sûr, je dis ça en tant que comédien amateur, mais je trouve qu'il ne faut jamais essayer de copier ce qu'on fait quelqu'un qui a déjà joué la pièce, qu'ils aient été professionnels ou amateurs, qu'ils aient été connus ou non. Je pense qu'il faut toujours adapter à sa sauce, même si parfois, comme on a fait, je crois que j'étais venu en parler l'an dernier, mais comme on a fait pour Les Deschiens, où il faut quand même avoir un petit rapprochement vers les Deschiens, parce que la pièce est tellement collée à eux qu'on est obligé d'avoir
leur identité,
ouais, voilà, d'avoir un petit peu leur identité, tout en le faisant quand même à notre manière. Là, non, on peut quand même déjà plus se libérer, plus le faire à notre manière. Ce qui est bien, c'est que malgré que j'ai vu je ne sais combien de fois la pièce, j'ai un désavantage qui peut être parfois un avantage, c'est-à-dire que j'ai une très mauvaise mémoire. Donc du coup, quand je propose une idée et que Christelle dit « c'est pas un peu comme dans la pièce, ça », je fais « alors là, j'en sais rien, je sais pas, je m'en souviens pas ». Donc du coup, non, je pense qu'on a vraiment essayé de faire comme nous, on le voyait avec Christelle et puis avec Stéphane. Et puis, tout simplement, à force de travailler la mise en scène, on s'est dit que ça pouvait être pas mal comme ça, mais on a vraiment pas essayé non plus de trop la rajeunir, parce qu'il y a des choses, des propos, le terme est dur, mais des mots qui font que on pouvait pas trop rajeunir la pièce non plus. Donc on a essayé de garder, même si on le précise jamais, on a essayé de garder ce côté années 80, années mi-80 je pense, pour essayer de faire vivre le public à cette époque-là, et je pense qu'il devrait s'y retrouver facilement.
Vous l'avez dit, on vous a reçu l'année dernière, donc la compagnie des Saltimbanques de Montaudin, on vous avait déjà un peu présenté. Qu'est-ce qu'on peut redire, peut-être quelques mots, donc, sur cette compagnie amateur? Vous avez dit effectivement qu'elle a été créée en 94.
C'est ça, donc 31e année.
C'est ça.
Bon, moi ça va, j'étais pas là dès le début, mais je pense à ceux qui étaient là depuis la première saison et qui sont encore là aujourd'hui. Petit clin d'œil, hein, mais rassurez-vous, ce n'est que 30 ans, enfin. Mais c'est une compagnie qui existe depuis plus de 31 ans. Qui a été une idée de mes parents et de Stéphane Delière également, qui, suite au maire de Montaudin, qui voulait remonter le théâtre après je ne sais combien d'années de pause. Du coup, ils leur ont proposé, puis ils ont monté ça, puis ça ne s'est jamais arrêté, sauf pendant la période Covid où on a fait juste un an, contrairement à beaucoup de troupes qui ont dû faire 2 ou 3 ans de pause. Nous, on avait fait juste un an, donc ça, on a eu vraiment beaucoup de chance là-dessus. Mais on essaye de proposer chaque année des pièces différentes. Et puis, on se fait plaisir toujours autant. Puis, à côté de ça, on a réussi à avoir, je crois, entre 4 et 5 sélections au festival qui est national maintenant, au festival national L'Époclinade. Donc, je pense que chaque année où on arrive à être sélectionné, sachant que c'est passé de départemental à interdépartemental, à régional, à national, je pense que si jamais on est sélectionné aujourd'hui, on va être plus stressé que content. on a remarqué qu'il y avait du public d'Époclinade qui venait aussi nous voir, des gens qu'on ne connaît pas. Ils disent « Mais si, on est venu vous voir à Mayenne il y a 4 ans et on revient maintenant tous les ans. » Enfin bon, d'accord, ok.
Donc, il y a un public fidèle.
Ouais, un public qui nous apprécie beaucoup. Et on a même, des fois, on ne comprend pas cette phrase, même si elle nous fait plaisir. C'est y en a, ils vont voir des troupes qui n'ont jamais été sélectionnées à des festivals, qui sont des copains d'ailleurs, ces troupes-là, et ils viennent pas nous voir. Et quand ces troupes-là, qui sont nos copains, leur dit « Mais pourquoi vous allez pas aller voir les Saltimbanques ?» Ils font « Parce que c'est un trop haut niveau. » Je fais « Pardon ?» Je crois que vous nous avez jamais vus. Du coup, ça fait énormément plaisir. Les gens se font une idée de nous qui, je pense, faut pas trop s'imaginer qu'on est... Enfin, là, je dis le terme avec des guillemets, hein, incroyable, parce que je trouve que c'est pas vrai, même si je pense que nos comédiens sont très très bons, mais nous on essaye juste de s'éclater, de passer des bons moments, et puis voilà, si vous avez envie de nous découvrir, venez nous voir tout simplement, ne nous dites pas non, c'est trop haut, c'est pas vrai, on est gentils.
Mais on peut dire qu'il y a une rigueur dans le travail, par exemple pour la préparation de cette pièce, vous la travaillez depuis combien de temps concrètement avec l'ensemble de la troupe une fois que vous l'avez choisie cet été et que vous avez passé votre été à retaper le texte?
Du coup, moi je travaille plus que les autres.
Ça commence un peu plus tôt.
Mais non, en général, on commence en septembre, là je crois même que c'est tombé le 1er septembre. Je crois, enfin, c'est le premier vendredi de septembre, et on n'a pas de vacances, c'est à dire que c'est ce qu'on fait pour l'atelier théâtre. Tanguy et Christelle, qui sont co-metteurs en scène de l'atelier théâtre, eux ils répètent sur la période scolaire, et une fois que c'est les vacances, ils demandent à l'atelier de prendre une pause, etc. Nous, il n'y en a pas, on a toujours décidé qu'on n'essayait pas de faire de pause, on fait de septembre jusqu'à fin janvier pour pouvoir jouer début février, c'est une répétition tous les vendredis soirs. Après, ça nous est arrivé, je pense qu'il y a 2 ans, que la pièce était assez compliquée. On a eu pas mal de problèmes. On avait dû rajouter, je crois qu'on a dû rajouter des mardis soirs, des jeudis soirs. Par contre, c'est tous les ans, on essaye de faire un dimanche matin par mois. Donc, on se lève vers 9h, mais j'ai envie de dire, le fait qu'on soit fatigué nous donne plus d'envie, en fait, de se dire, voilà, on est sur une autre période de la journée, on a envie de se lâcher, on a envie de montrer de quoi on est capable. Et du coup, bah, ça permet d'avoir de bonnes répétitions en général le dimanche. Donc, ouais, je dirais à peu près une par semaine, voire deux selon les mois, quoi.
On peut parler d'un vrai travail, parce que c'est quand même la particularité du théâtre amateur, des gens de différents horizons qui se retrouvent après leur activité pour préparer donc une pièce de théâtre. Comment vous voyez peut-être l'importance, la place du théâtre amateur dans la culture locale?
Pour moi, elle est hyper importante. C'est vrai que ce soit pour moi, c'est toujours un truc où j'ai du mal, et j'ai remarqué que j'étais pas le seul à force de le dire. C'est que pour moi, il n'y a pas d'amateur, il n'y a pas de professionnel. J'en parlais justement à Jérôme Rousselet, peut-être que vous connaissez, qui fait partie de la compagnie Pacapaz, où on se connaissait très très peu, et je l'avais invité dans une de mes émissions quand j'animais une émission sur le web. Et on m'avait dit, surtout moi qui étais tout le temps sur mon message de amateur professionnel, c'est la même chose, on m'avait dit, surtout tu la fermes, surtout tu ne dis rien. Et je m'installe face à Jérôme Rousselet, je me retiens, etc., en me disant, ce mec là je le connais pas bien, mais si jamais il me sort un truc de travers, je vais y aller. Et à peine l'émission commence, Jérôme Rousselet lui-même fait, non mais amateur professionnel, quelle est la différence, il y en a pas. Et je fais, ben oui, c'est vrai. Ouais. Et en fait, non, je pense que c'est très important, les deux côtés. On est tous les deux passionnés, en fait, du monde théâtral. Et c'est vrai que j'ai une pensée vers tous ceux qui sont dans le milieu culturel, suite aux dernières annonces qu'il y a eu de retirer un peu d'argent, quoi. Je pense beaucoup à eux. J'en ai travaillé avec certains. Il y en a certains qui ne savent pas comment ils vont pouvoir repartir avec aussi peu d'argent. Mais ouais, c'est très important. Il faut garder ce côté local, ce côté proche, quand justement on n'a pas l'occasion de pouvoir aller côté professionnel, parce que des fois c'est un peu plus cher, et c'est pas de leur faute, c'est juste que le spectacle coûte un peu plus, et puis en plus il faut qu'ils en vivent. Nous, c'est juste pour récupérer de l'argent pour l'association en elle-même, donc on peut se permettre d'un peu moins cher. Donc ouais, non, pour moi c'est vraiment très important, et j'engage toute personne qui sont intriguées par le théâtre d'aller voir des troupes. Franchement, aller voir des troupes, je parle pas forcément de nous, mais je pense à des copains. Je veux dire, dernièrement j'ai eu la troupe de Saint-Hilaire-du-Harcouët au téléphone, avec qui je m'entends très 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 bien. J'ai eu l'occasion de jouer avec eux, et c'est vrai que là ils essayent de trouver une nouvelle façon de faire de la communication, parce que ça fait des années qu'ils ont le même nombre de personnes, mais littéralement, c'est-à-dire qu'ils ne dépassent jamais ce quota. Et justement, aller voir des troupes comme Saint-Hilaire-du-Harcouët, aller voir des troupes comme Saint-Berthevin les Laval, il y a aussi la troupe de Comté qui joue en ce moment, ce sont des troupes vraiment vraiment géniales. Prenez le temps d'aller les voir, vous allez vraiment pas être déçus. Donc voilà, je fais un petit peu de pub pour les copains, même s'ils jouent pas en même temps que nous, mais
mais oui, c'est important. Bien. Ce qu'il faut dire, c'est que finalement, t'es professionnel ou amateur, c'est avant tout des gens passionnés, et puis qui travaillent durement pour proposer une pièce de qualité.
Bien sûr. Enfin, après, Saint-Berthevin, il travaille moins longtemps, mais je crois qu'il prépare une pièce en 3 mois. Donc c'est pour vous dire à quel point.
chacun. C'est vrai que chacun en fonction des possibilités, mais c'est intéressant et c'est important de le rappeler. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas la pièce, et puis qui ne connaîtrait pas forcément les saltimbanques de Montaudin, comment vous lui donneriez envie de venir découvrir ce que vous faites, découvrir cette pièce le premier, à partir du 1er février?
Je dirais que si jamais vous pensez qu'en ce moment, votre vie, elle est très complexe, que vous n'avez que des merdouilles par-ci, par-là, et que ça ne fait que s'accumuler, imaginez que toutes ces merdouilles s'accumulent dans une seule et même soirée et sur quelqu'un d'autre. Est-ce que vous ne seriez pas ravi que ça arrive à quelqu'un d'autre? C'est justement ce qui va se passer sur scène.
C'est pas mal. Ça permet un peu de soulager quelque chose. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Je vais rappeler quand même donc les différentes représentations. La première, le samedi 1er février à 20h30. La seconde, le dimanche 2 février à 14h30. Et ensuite, le vendredi 7 février, 20h45. Et pour terminer, le samedi 8 février à 20h30, ça se passe à la salle de la Rabine à Montaudin. Donc, il y a forcément une date qui convient à l'auditeur de l'autre radio. radio pour venir vous voir. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Et puisqu'on parle un peu de quiproquo, d'amour contrarié, de sous-vêtements, enfin, on parle de choses un peu... on ne sait pas encore trop, il faut aller voir la pièce. On parle de tout sur l'autre radio. On va maintenant écouter Polo & Pan, Cœur croisé. Je ne sais pas si ça parle autant dans tous les... Ça part autant dans tous les sens, mais en tout cas, c'est sympa à écouter. C'est parti.
Je me baladais, j'étais perdu. Quand je t'ai croisé, belle inconnue. D'un simple regard, j'ai deviné le parfum fragile d'un cœur brisé. Si seulement je t'avais dit salut, il me semble qu'on se serait plus. Mais Cupid, on n'a pas décoché. Et j'ai continué à marcher.
On le sait, trouver un logement, c'est souvent un parcours du combattant. Et pour les jeunes, c'est encore une autre histoire. Trop cher, trop loin, trop petit ou tout simplement introuvable. Pourtant, des solutions existent, des dispositifs qui jouent les passeurs entre ceux qui ont une chambre en trop et ceux qui cherchent un toit, même pour une très courte période. Aujourd'hui, on va parler d'une initiative qui rapproche et qui met un peu d'humain dans le logement. Il s'agit de l'hébergement temporaire chez l'habitant. Et c'est l'occasion, l'association départementale pour le logement des jeunes en Mayenne qui nous en parle. Écoutez.
Anaïs Le Bourdet, je suis chargée de mission hébergement temporaire chez l'habitant à l'ADLJ, donc c'est l'association départementale pour le logement des jeunes. L'émission de l'ADLJ, c'est d'accompagner tous les jeunes de moins de 30 ans dans toutes leurs démarches liées au logement. Donc ça peut être pour une recherche d'un premier logement, donc pour entrer dans le logement, on peut l'accompagner pour faire ses visites de logement, l'état des lieux, l'accompagner également sur toute la question du budget, donc pour se maintenir dans le logement et également pour la sortie du logement.
Donc si on parle de ce dispositif, l'hébergement temporaire chez l'habitant, qu'est-ce qu'on peut en dire pour le présenter dans ces grandes lignes?
Donc l'hébergement temporaire chez l'habitant, le principe c'est d'aider les jeunes qui sont en mobilité professionnelle ou scolaire à trouver une chambre chez l'habitant le plus proche possible de leur lieu de stage, d'apprentissage, d'école. Un jeune qui aurait un stage découverte par exemple, il va trouver un lieu de stage qui l'intéresse vraiment mais assez loin de chez ses parents. Et bien au lieu de devoir obliger ses parents à faire la route tous les jours s'il travaille, et bien il peut être vraiment tout proche de son stage. Donc pour un stage d'une semaine, enfin il n'y a même pas de minimum, ça peut être un jour ou deux. Ça peut être également un étudiant, donc il aurait besoin du lundi au vendredi, pas les week-ends, pas les vacances scolaires. Un alternant qui serait là une semaine ou deux par mois, ou alors également une personne en CDD ou CDI, par exemple le temps de valider sa période d'essai.
Comment se passe exactement ce dispositif ?
Donc en fait, il suffit juste de nous contacter, donc directement sur le fixe de la DLJ, pour qu'on puisse échanger avec le jeune, lui présenter cette proposition d'hébergement ou d'autres, en fait, en fonction de ce qu'il souhaite. Et on constitue son dossier, donc c'est très simple, en fait il remplit juste une fiche de renseignement hébergé. Sur la première partie on lui demande ses coordonnées et sur la deuxième partie des petites questions sur la vie quotidienne. Donc on va lui demander s'il préfère être hébergé chez une personne seule, homme ou femme, est-ce que s'il y a des animaux domestiques c'est gênant, s'il est allergique par exemple. Du côté de l'hébergeur, en fait ce sont des personnes qui nous contactent parce qu'ils ont une chambre disponible chez eux. Donc soit leurs enfants ont quitté la maison pour les études ou du travail, ou alors ce sont des personnes qui ont des chambres disponibles chez eux et ils veulent pouvoir les mettre à disposition de jeunes.
Quels sont les critères pour devenir hébergeur ?
Alors, au niveau de la chambre, il y a seulement deux critères. Il faut qu'elle fasse 9 mètres carrés minimum et qu'il y ait la lumière naturelle, donc une fenêtre et un minimum d'équipement, évidemment.
C'est un dispositif qui existe depuis combien de temps ? Et alors, on s'adresse à vous lorsqu'on se situe à quel endroit dans le département ?
Alors, donc nous, la DLJ, on couvre le territoire de Mayenne Communauté et Laval Agglomération depuis le 1er septembre 2023 et plus récemment le Pays de Cran depuis le 1er septembre 2024. Et d'ailleurs, on organise une réunion publique au centre social Vie et Vien le jeudi 6 février à partir de 18h30. Nous, la DLJ, nous couvrons 3 territoires sur la Mayenne et nos collègues de la résidence Habitat Jeune, le Nymphéa sur Évron, couvre les Coëvrons et le Mont des Avaloirs.
Ce qu'il faut noter, c'est que c'est un hébergement aussi qui est très accessible en termes de tarifs.
Exactement, le but c'est que ce soit vraiment accessible pour les jeunes, donc ce sont des tarifs à la nuitée. 15 euros la nuitée l'été, 17 euros l'hiver. Et ce sont des tarifs qui sont plafonnés. Donc un jeune qui reste un mois complet paiera maximum 270 euros l'été et maximum 290 euros l'hiver.
Alors comment se passe pour vous la rencontre ? En fait, j'imagine que vous rencontrez les hébergeurs en amont.
Tout à fait. Donc on a un premier échange en général au téléphone. Les hébergeurs nous appellent pour prendre des informations. Et si jamais ils sont intéressés pour entrer dans le dispositif, on fixe un rendez-vous pour aller visiter la chambre et l'espace commun. Ça nous permet de pouvoir les rencontrer, d'échanger sur le dispositif et puis de valider le logement.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Avant de retrouver la chronique de l'UFC Que Choisir avec Jean-Michel Guinaudot, on fait une pause musicale. Quand on parle musique, et bien maintenant, même les algorithmes s'en mêlent, même l'intelligence artificielle entre dans la danse. Justement, on écoute IA de MC Solar, c'est un flow millimétré sur une époque où tout se calcule, sauf peut-être les sentiments.
Mais que se passerait-il si une IA devenait totalement autonome ? Que des idées et une volonté propre s'éveillaient en elle.
Suivant. Matricule numéro 453-298. Vous comparaissez devant l'intelligence artificielle suprême aujourd'hui pour le crime que vous allez commettre selon les algorithmes. Asseyez-vous et...
Bonne chance.
C'est un deepfake, c'est pas vrai, c'est faux, ce sont des boniments. Please analyser et vérifier tous les éléments. Sachez que dans cette ville, il n'y a pas ce genre de monument. Prenez le temps, je vous le demande solennellement.
Mais non, je n'ai pas pris part à ces événements. Oui, je peux le dire, je n'étais pas dans ce département. J'ai passé la nuit tranquillement dans mon appartement.
Nous avons des preuves, tu te défends vainement.
Je me suis levé à 8h pour un retour à 11h. Arrive à 9h au théâtre de 10h. À 13h, j'apprends que je suis dans le viseur. Photos sur écran, iPhone et téléviseur. Jugé par le tribunal IA, je jure de dire la vérité qu'il n'y aura pas de parjure. Qu'il y aura non-lieu dans le présent et le futur.
Nous avons des preuves, tu te défends vainement.
Check, check, one, two, microphone checké. On se croit chez Kafka, République de Tchéquie. La justice est rendue par l'ordinateur central, un collecteur de data
qui trie le bien et le mal.
Check, check, 1, 2, microphone checké. Pas
patate à la Kafka. République de Tchéquie, la justice est rendue par l'ordinateur central.
Nous avons des preuves, tu te défends vainement.
Le justiciable n'a plus que sa salive, pris dans la glace algorithmique de la justice prédictive. Rien n'a eu lieu, tout est créé virtuellement.
Nous avons des preuves, tu te défends vainement.
Une balance tient le glaive qui mène au glaive à la balance. L'IA m'a haï, trahi au nom de la science. S'il n'y a pas de scénar, pas de réel, est-ce que cela est réel?
Oui, tout ceci est réel.
Check, check, one, two, microphone checké. On se croit chez Kafka, République de Tchéquie. La justice est rendue par l'ordinateur central, un collecteur de data
qui trie le bien et le mal.
Check, check, 1, 2, microphone checké. Patate à la Kafka, République de Tchéquie. La justice est rendue par l'ordinateur central, un collecteur de data
qui fait le mal et le mal.
Consommer, c'est choisir, mais encore faut-il avoir toutes les cartes en main pour faire les bons choix. Heureusement, l'UFC Que Choisir de la Mayenne veille au grain et Jean-Michel Guinaudeau est là pour nous éclairer sur nos droits et nos meilleures options en tant que consommateurs. Ça tombe bien, c'est la chronique du jour.
La chronique du UFC Que Choisir 53 avec Jean-Michel Guinaudeau.
Bonjour Jean-Michel Guinaudeau, vous souhaitez nous faire part de vos recommandations en matière d'achat d'un véhicule d'occasion. Les litiges sur ce sujet, est-ce qu'ils sont nombreux ?
Bonjour Margot. Eh oui, malheureusement, il ne se passe pas de semaine sans que l'on vous sollicite pour une panne apparue peu de temps après l'achat d'un véhicule d'occasion.
Il y a pourtant des garanties, non ?
Et d'après le code de la consommation, les voitures d'occasion, comme tout produit d'occasion, bénéficient d'abord de la garantie légale de conformité pendant 2 ans après l'achat, le défaut constaté pendant la première année étant présumé exister lors de l'achat, et donc doit être réparé par le vendeur. Et pendant la seconde année, c'est à l'acheteur de prouver que le défaut existait lors de l'achat. Et la difficulté vient, d'une part, de l'interprétation du terme « conformité » et d'autre part, de l'application par le vendeur réticent. Il y a aussi la garantie contre les vices cachés, mais là, la preuve devant être apportée par l'acheteur en s'appuyant sur une expertise malheureusement très onéreuse.
Pourquoi le terme « conformité » pose problème ?
Eh bien, tout simplement parce que des juges ont estimé qu'une voiture affichant 150 000 km dont l'embrayage était usé était conforme à ce que pouvait en attendre un acheteur.
Alors, quelles précautions faut-il prendre lors de l'achat d'un véhicule d'occasion ?
Eh bien, tout d'abord, sauf si l'on est mécanicien ou si l'on peut se faire accompagner par un spécialiste, ne pas acheter en direct auprès d'un particulier et surtout par l'intermédiaire des plateformes comme Le Bon Coin ou eBay. Reste donc les circuits des professionnels, concessions, agences multimarques, garages de réparation. Et dans la mesure du possible, le vendeur doit être situé dans un rayon de 20-30 km pour être joignable facilement. Comme toujours, la bonne affaire est celle qui est le plus à risque. La voiture de 20 ans affichant 3000 km n'est pas aussi fiable qu'une voiture de 5 ans affichant 70 000 km. Les joints, certaines pièces s'usent avec l'âge, sans compter le risque du trafic du compteur. Les concessions engagent leurs marques. Les tarifs sont plus élevés, mais les véhicules sont vérifiés et souvent garantis par une garantie commerciale. Lors de la visite d'achat, avoir du temps devant soi pour inspecter le véhicule, prévoir une lampe électrique, un moteur bien propre peut cacher une fuite d'huile dont on a fait disparaître l'origine. Avant de partir voir la voiture retenue, se faire une checklist des points à vérifier avec une notation de 1 à 5. Les pneus, les éclairages, les essuie-glaces, les témoins quand est le tapis, les sièges, etc. Et in fine, l'essai sur route. Ne pas croire ce que dit le vendeur. Le cas échéant, demander les justificatifs de remplacement d'un élément essentiel. Enfin, le dossier administratif doit être complet. Contrôle technique, récent, conforme, carte grise, certificat de non-gage et attestation Istovec donnant l'historique du véhicule. Et vérifier que le vendeur est bien le propriétaire de la voiture. Il manque un document ou une information est erronée ? Ne pas poursuivre la négociation, quelle que soit l'explication donnée, car la somme en jeu est souvent importante. Enfin, il faut savoir qu'une voiture n'aime pas le changement de conducteur. Ne pas se tromper sur le type de motorisation. Le diesel est fait pour des moyennes et longues distances, car le moteur doit monter en température pour un fonctionnement optimal. Donc, pour faire les 6 km aller-retour le matin et le soir pour récupérer les enfants, choisissez une version essence. Même s'il se trouve une bonne occasion en diesel, cette dernière risquerait l'usure prématurée.
Puisque l'on parle de voiture d'occasion, que faut-il faire pour la vendre de façon plus sûre ?
Les conseils pour l'achat valent pour la revente. Si malgré tout, vous revendez à un particulier, demandez un chèque de banque dont vous vérifierez l'authenticité auprès de la banque émettrice avant de l'accepter. Ce qui exclut les ventes, les jours de fermeture des banques, notamment les samedis et dimanches. Pour rappel, tout paiement en liquide de plus de 1000 euros est interdit.
Merci Jean-Michel Guinaudot pour ces informations. Est-ce que vous pouvez rappeler les coordonnées de votre association pour que les auditeurs puissent vous joindre ?
L'UFC Que Choisir de la Mayenne est joignable du lundi matin au vendredi midi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, au 02 43 67 01 18 et par mail à contact@mayenneufckechoisir.fr et sur notre site mayenne.ufckechoisir.fr pour un renseignement ou un rendez-vous à Laval ou Château-Gontier. Et bien sûr, pour nous proposer vos services pour des animations ou le traitement d'un litige. À bientôt.
À bientôt, merci Jean-Michel. L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à David Le Dauphin de la compagnie des Saltimbanques de Montaudin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci également à Jean-Michel Guinaudot, notre chroniqueur du jour. Moi, je m'arrête ici, mais ça continue sur les ondes de l'autre radio. Alors, qu'est-ce qu'on écoute ce soir ? Comme chaque semaine, c'est Novorama qui sélectionne les nouveautés indie rock, pop et électro et qui nous en parle, en fait, à travers des chroniques, des interviews d'artistes ou de groupes émergents. Et donc, ça commence à 19h. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. L'entretien sera consacré à Enya Barou, qui était présente au Cinéville de Laval hier soir pour présenter son tout premier film « On ira », une comédie touchante qui aborde la question de la fin de vie. D'ici là, ayez une pensée douce et bienveillante pour quelqu'un. Les belles intentions voyagent loin, même les plus silencieuses. J'en suis sûre, c'est une occasion discrète de faire le bien.
Bon, ben, Mimi, on dirait que c'est fini. Oh, ben, c'était bien, hein.